Genèse, chapitre 2. La poussière de charbon en suspension dans l'air de la cale avait pris un reflet rouge foncé au moment de l'explosion. En un clin d'œil, durant l'infinitésimale fraction de seconde qui s'était écoulée depuis que l'établi avait commencé à basculer, j'étais venu m'étaler de tout mon long sur la cargaison. Je me rabassais et me tirais de là. Ce fut aussi rapide que si j'avais rebondi. Le pont n'était qu'un chaos d'éclats de bois, entremêlés comme les arbres dans une forêt après un ouragan. Un immense rideau de haillons sales ondulait doucement devant moi. C'était la grand-voile déchiquetée. Je me pris à dire « La mâture va s'affaler dans un moment », et pour me déhaler de là, je filai à quatre pattes du côté de l'échelle de la dunette. La première personne que je vis fut Mahon, les yeux tout ronds, la bouche ouverte et ses longs cheveux blancs hérissés autour de la tête comme un halo d'argent. Il était sur le point de descendre quand la vue du pont qui bougeait, se soulevait, se métamorphosait devant lui en éclats de bois, l'avait comme pétrifié sur l'échelon d'en haut. Je le regardais ahuri, et il me regarda à son tour avec une singulière expression de curiosité scandalisée. Je ne savais pas que je n'avais plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils, que ma jeune moustache avait flambé, que j'avais la figure toute noire, une joue fendue, une entaille au nez et le menton en sang. J'avais perdu ma casquette, une de mes savates, et ma chemise était en loques. De tout cela, je n'avais pas la moindre idée. J'étais stupéfait de voir le navire encore à flot, la dunette intacte, et surtout de voir des gens encore en vie. En outre, la paix du ciel et la sérénité de la mer étaient véritablement surprenantes. Je suppose que je m'étais attendu à les voir bouleversés d'horreur. Passez-moi la bouteille. Une voix est là de je ne sais où, en l'air, du haut du ciel, je n'aurais pu le dire. Immédiatement, je vis le capitaine. Il était fou. Il me demanda avec insistance « Où est la table du carré ?» Et d'entendre une question pareille me causa un choc affreux. Je venais de sauter, vous concevez, et j'étais encore tout vibrant de cette expérience. Je n'étais pas tout à fait sûr d'être encore en vie. Mahon se mit à taper des deux pieds et lui cria « Bon Dieu, vous ne voyez donc pas que le pont a sauté ?» Je retrouvai ma voix et me mis à bégayer, comme si j'avais eu conscience d'avoir grandement manqué à mon devoir. « Je ne sais pas où elle est, la table du carré. » C'était comme un rêve absurde. Et savez-vous ce qu'il demanda ensuite? Eh bien, il voulut faire brasser les vergues. Placide et comme perdu dans ses pensées, il insista pour faire brasser carré la vergue de misaine. « Je ne sais pas s'il y a encore du monde en vie, » dit Mahon qui pleurait presque. « Sûrement, » fit-il doucement. « Il doit en rester assez pour brasser la misaine. » Le vieux était, paraît-il, dans sa cabine à remonter les chronomètres, quand le choc le fit tournoyer sur lui-même. Aussitôt, il lui vint à l'esprit, comme il le dit par la suite, que le navire avait touché, et il se précipita dans le carré. Là, il s'aperçut que la table avait disparu. Le pont ayant sauté, elle s'était naturellement effondrée dans la soute à voile. À l'endroit où nous avions déjeuné le matin, il ne vit plus qu'un grand trou dans le plancher. Cela lui parut si terriblement mystérieux et lui fit une si forte impression que ce qu'il entendit et vit, une fois monté sur le pont, ne lui sembla qu'une pure bagatelle en comparaison. Et notez bien qu'il remarqua aussitôt qu'il n'y avait personne à la barre et que son navire n'était plus en route. Et son unique pensée fut que cette misérable carcasse de navire dégréée, béante, fumante, il fallait la faire revenir en route le cap sur son port de destination, Bangkok. Voilà ce qu'il voulait. Je vous dis que ce petit homme tranquille, voûté, les jambes arquées, presque difforme, était magnifique par la simplicité de son idée fixe et sa paisible indifférence à toute notre agitation. Il nous envoya devant d'un geste d'autorité et alla lui-même prendre la barre. Oui, ce fut la première chose que nous fîmes, brasser les vergues de cette épave. Personne n'était tué, ni même estropié, mais tout le monde était plus ou moins touché. Vous auriez dû les voir. Quelques-uns de nos hommes étaient en loques, la figure noire comme des charbonniers, comme des ramoneurs, et leur tête ronde avait l'air d'avoir été tondue ras. La vérité était qu'ils avaient eu les cheveux flambés jusqu'à la peau. D'autres, les hommes non de quart, réveillés par le choc, ne cessaient de frissonner et de geindre, alors que nous étions tous à l'ouvrage. Mais ils en mettaient tous. Cet équipage de mauvaise tête de Liverpool avait le cœur bien placé. J'ai pu me convaincre qu'ils l'ont toujours. C'est la mer qui leur donne ça, le grand espace, la solitude qui environne leurs âmes sombres et taciturnes. Enfin, on trébucha, on se traîna, on tomba, on se meurtrit les tibias sur les débris, mais nous tirâmes dessus tout de même. Les mâts tenaient, mais nous ignorions jusqu'à quel point ils pouvaient bien être carbonisés en dessous. Le temps était presque calme, mais une longue houle d'ouest faisait rouler le navire. Les mâts pouvaient tomber à tout instant. Nous les regardions avec appréhension. On ne pouvait prévoir de quel côté ils tomberaient. Puis nous nous retirâmes à l'arrière et regardâmes autour de nous. Le pont n'était plus qu'un ramassis de planches de champ, de planches de boue, d'éclats de bois, de boiseries arrachées. Les mâts se dressaient sur ce chaos comme de grands arbres au-dessus de broussailles enchevêtrées. Les interstices de cet amas de débris se remplissaient de quelque chose de blanchâtre qui se traînait, bougeait et ressemblait à un brouillard gras. La fumée de l'invisible incendie montait, rampait comme une brume épaisse et empestée dans un vallon comblé de bois mort. Déjà des volutes languissantes s'enroulaient parmi la masse des débris. Ça et là, un morceau de poutre planté tout droit avait l'air d'un poteau. La moitié d'un cercle de tournage avait été projeté à travers la voile de misaine, et le ciel faisait une trouée d'un bleu éclatant dans la toile ignoblement souillée. Un débris fait de plusieurs planches était tombé en travers de la rambarde, et l'une de ses extrémités débordait, comme une passerelle qui ne conduisait à rien, comme une passerelle qui menait au-dessus de la mer, qui menait à la mort, qui semblait nous inviter à franchir cette planche tout de suite et à en finir avec nos absurdes misères. Et toujours en l'air, dans le ciel, on entendait un fantôme, quelque chose d'invisible qui hélait le navire. Quelqu'un eut l'idée de regarder. C'était l'homme de la barre qui, d'instinct, avait sauté par-dessus bord et qui voulait remonter. Il hurlait tout en nageant avec vigueur comme un triton et en se maintenant à hauteur du navire. On lui lança un bout et il se trouva bientôt parmi nous, ruisselant d'eau et fort penaud. Le capitaine avait passé la barre à quelqu'un d'autre et seul, à l'écart, le coude sur la lisse, le menton dans la main, il contemplait la mer mélancoliquement. Nous nous demandions « Et puis quoi encore ?» Moi, je me disais « À présent, ça vaut vraiment la peine. C'est magnifique. Je me demande ce qui va bien pouvoir arriver. » « Oh, jeunesse !» Mahon, tout à coup, aperçut un vapeur loin sur l'arrière. Le capitaine Béat lui dit « On peut encore se tirer de là. » On hissa deux pavillons qui voulaient dire dans le langage international de la mer « Feu à bord, demandons secours immédiat. » Le vapeur grossit rapidement et nous répondit bientôt au moyen de deux pavillons à son mât de misaine « Je viens à votre secours. » Une demi-heure après, il était par notre travers, au vent, à portée de voix, et il roulait un peu, ayant stoppé. Nous perdîmes tous en froid, et nous mîmes tous à hurler comme des fous. « Nous avons sauté !» Un homme en casque blanc sur la passerelle cria « Oui, oui, ça va bien, ça va bien !» Et il hochait la tête, il souriait, il faisait de la main des gestes rassurants, comme s'il avait eu affaire à une bande d'enfants effrayés. Une des embarcations fut mise à l'eau, et vint vers nous au rythme de ses longs avirons. Quatre calaches souquaient d'une nage balancée. C'était la première fois que je voyais des marins malais. J'ai appris depuis l'heure à les connaître, mais ce qui me frappa alors, ce fut leur air détaché. Ils accostèrent, et même le brigadier du canot, debout, crochant sa gaffe aux cadènes des grands haubans, ne daigna pas lever la tête pour nous jeter un regard. Je trouvais, moi, que des gens qui avaient sauté méritait vraiment plus d'attention. Un petit homme sec comme une trique et agile comme un singe grimpa à bord. C'était le second du vapeur. Il lança un seul coup d'œil. « Holà, les gars, vous feriez mieux de l'abandonner. » Nous nous taisions. Il s'entretint un moment à l'écart avec le capitaine. Il semblait discuter avec lui. Puis ils s'en allèrent ensemble à bord du vapeur. Quand notre capitaine revint, nous apprîmes que le vapeur était le Somerville, capitaine Nash, allant d'Australie-Occidentale à Singapour via Batavia avec le courrier et qu'il était convenu qu'il nous remorquerait jusqu'à Angers ou Batavia, où l'on pourrait éteindre l'incendie en s'abordant, puis poursuivre notre voyage jusqu'à Bangkok. Le vieux semblait très excité. « Nous y arriverons tout de même, » dit-il à Mahon d'un air farouche. Il montrait le poing au ciel. Nul ne disait mot. À midi, le vapeur nous prit en remorque. Il s'en allait devant, svelte et haut, et tout ce qui restait de la Judée suivait au bout de 70 brasses de remorque, suivait rapide comme un nuage de fumée, avec des bouts de mât qui dépassaient. Nous montâmes serrer les voiles. Nous toussions dans les vergues, et nous faisions soigneusement le chapeau. Vous nous voyez là-haut en train de serrer comme il faut les voiles de ce navire, condamné à n'arriver nulle part. Il n'y en avait pas un de nous qui ne pensât qu'à tout instant, la mâture pouvait s'affaler. De là-haut, la fumée nous empêchait de voir le navire, et les hommes travaillaient soigneusement, passant les rabans avec des tours égaux. « Et serré comme dans un port, hein, là-haut ? » criait Mahon d'en bas. Vous comprenez ça ? Je ne crois pas qu'un seul de ces gaillards-là pensait redescendre de là-haut de la manière habituelle. Eh ben, je croyais bien qu'on dégringolerait par-dessus bord, tous en tas, les mains et le reste. Du diable, si je ne le croyais pas. C'est juste ce que je me disais aussi, répondait avec lassitude un autre épouvantail, harassé et enveloppé de bandages. Et notez bien que c'étaient des hommes qui n'avaient pas l'obéissance ancrée dans la peau. Un spectateur n'aurait vu en eux qu'une bande de vauriens cyniques que rien ne rachetait. Qu'est-ce qui leur faisait donc faire tout cela? Qu'est-ce qui les fit m'obéir quand, pour la beauté de la chose, je leur fis deux fois lâcher le chapeau de la misaine pour essayer de le refaire mieux? Dites-le-moi. Ils n'avaient pas une réputation professionnelle à soutenir, pas d'exemple, pas de compliment. Ce n'était pas le sentiment du devoir. Ils savaient tous tirer au flanc, se la couler douce, se défiler, quand ça leur chantait. Était-ce les 2 livres 10 de gages par mois qui les faisaient grimper là-haut? Ils trouvaient que leur gage n'était pas de moitié assez bon. Non, c'était quelque chose en eux, quelque chose d'inné, de subtil, d'éternel. Je ne veux pas dire que l'équipage d'un navire marchand français ou allemand ne se serait pas aussi bien comporté, mais je doute qu'il l'eût fait de cette façon. Il y avait là une sorte de plénitude, quelque chose de solide comme un principe et de dominateur comme un instinct, la révélation de quelque chose de secret, de ce quelque chose de caché, de ce don du bien et du mal qui fait les différences de race et qui façonne le destin des nations. Ce fut cette nuit-là que, pour la première fois, depuis que nous le combattions, nous vîmes le feu. La vitesse de notre remorquage avait avivé la destruction latente. Une lueur bleue apparut à l'avant et qui brillait sous les débris du pont. Elle vacillait par plaques, elle semblait remuer et ramper comme la lueur d'un ver luisant. Je fus le premier à la voir et en avertis Mahon. « Il n'y a plus rien à faire, » fit-il. « Mieux vaut larguer la remorque, ou bien le navire va flamber tout d'un coup, de bout en bout, avant que nous n'ayons le temps de décamper. » Nous nous mîmes à hurler tous ensemble. On sonna la cloche pour attirer l'attention des autres, et ils nous remorquaient toujours. Il nous fallut enfin, Mahon et moi, gagner l'avant à 4 pattes et couper la remorque à coups de hache. On n'avait pas le temps de larguer les bridures. Nous pouvions voir des langues rouges lécher ce chaos d'éclats de bois sous nos pieds, tandis que nous regagnions la dunette. Bien entendu, à bord du vapeur, ils s'aperçurent bientôt que nous n'avions plus de remorque. Le navire lança un coup de sifflet. Nous vîmes ses feux décrire un grand cercle. Il s'approcha, vint tout près le long de nous et stoppa. Nous formions tous un groupe serré sur la dunette et le regardions. Chaque homme avait sauvé un petit paquet ou un sac. Soudain, une flamme en forme de cône, tordue au sommet, jaillit à l'avant et jeta sur la mer sombre un cercle de lumière au centre duquel les 2 bâtiments côte à côte se balançaient doucement. Le capitaine Beard était resté assis sur la claire-voie, immobile et muet depuis des heures, mais il se leva alors lentement et vint au-devant de nous jusqu'au hauban d'Artimon. Le capitaine Nash Haley, « Arrivez, dépêchez-vous, j'ai le courrier à bord. Je vous conduirai, vous et vos embarcations, jusqu'à Singapour. »« Non, merci, » dit notre capitaine. « Nous devons rester à bord jusqu'au bout. »« Je ne peux pas attendre plus longtemps, » cria l'autre. « Le courrier, vous comprenez ? » Bon, bon, ça ira. Bien, je vous signalerai à Singapour. Au revoir. » Il fit un geste de la main. Nos hommes tranquillement lâchèrent leurs paquets. Le vapeur mit en avant et, franchissant le cercle de lumière, disparut aussitôt à nos regards éblouis par le feu qui brûlait avec rage. Et c'est alors que je sus que je verrais l'Orient pour la première fois comme commandant d'une petite embarcation. Je trouvais cela beau, et cette fidélité pour le vieux navire était belle. Nous resterions avec lui jusqu'au bout. Oh, la splendeur de la jeunesse! Oh, le feu qu'elle renferme, plus éblouissant que les flammes du navire incendié, ce feu qui jette sur la vaste terre une clarté magique qui s'élance audacieusement vers le ciel et qui bientôt doit s'éteindre au contact du temps, plus cruel, plus impitoyable, plus amer que l'océan, et qu'environneront comme les flammes du navire incendié des ténèbres impénétrables. De son air flexible et doux, le vieux nous avertit que nous avions le devoir de sauver pour les assureurs tout ce que l'on pourrait emporter du matériel du navire. Nous nous mîmes donc à la besogne à l'arrière, tandis qu'à l'avant le navire flambait pour mieux éclairer notre ouvrage. Nous tirâmes dehors un tas de saletés. Que n'avons-nous pas sauvé ? Un vieux baromètre fixé par un nombre incroyable de vis faillit me coûter la vie. Je fus enveloppé d'un brusque jet de fumée et j'eus à peine le temps de me garer. Il y avait des réserves de toutes sortes, des pièces de toile à voile, des glaines de filin. La dunette ressemblait à un magasin de fournitures pour la marine et les embarcations étaient bondées jusqu'au plat-bord. C'était à croire que le vieux tenait à emporter tout ce qu'il pouvait de son premier commandement. Il était très très calme, mais avait évidemment un peu perdu la tête. Imaginez-vous qu'il voulait embarquer avec lui dans le grand canot une glaine de vieux grelins et une ancre à jet. On lui disait « Oui, oui, capitaine », avec déférence, et tout doucement, on laissait glisser tout cela par-dessus bord. Le pesant coffre à médicaments prit le même chemin, avec deux sacs de café vert, des caisses de peinture, imaginez-vous, de la peinture, un tas d'objets. Alors je reçus l'ordre de descendre dans les canots avec deux hommes pour arrimer le tout et tenir les embarcations prêtes pour le moment où nous aurions à quitter le navire. On mit tout en ordre, on mâta le grand canot pour notre capitaine, qui devait en prendre le commandement, et je ne fus pas fâché de m'asseoir un moment. Il me semblait avoir le visage à vif, tous les membres me faisaient mal, comme s'ils avaient été rompus, je sentais toutes mes côtes, et j'aurais juré que j'avais la colonne vertébrale tordue. Les embarcations, amarrées derrière, restaient dans une ombre profonde, et je pouvais voir, tout autour, le cercle de la mer qu'éclairait l'incendie. Une flamme gigantesque montait à l'avant, droite et claire. Elle avait un violent éclat, et il en sortait des bruits semblables à des battements d'ailes, d'autrefois un roulement pareil à celui du tonnerre. On entendait des craquements, des détonations, et du cône de flamme, des étincelles s'envolaient, comme l'homme naît pour les misères, pour les navires qui font eau et les navires qui brûlent. Ce qui me préoccupait, c'était que le navire étant à la bande, en travers à la houle et au peu de vent qu'il y avait, un souffle à peine, les canots ne voulaient pas rester à l'arrière où ils étaient en sûreté, mais s'obstinaient, avec cet entêtement stupide propre aux embarcations, à se fourrer sous la voûte arrière et à se coller le long du bord. Ils tossaient dangereusement et se rapprochaient de la flamme, tandis que le navire roulait au-dessus et, bien entendu, il y avait toujours le risque de voir les mâts passer par-dessus bord à tout instant. Moi et mes deux canotiers, nous débordions de notre mieux avec des avirons et des gaffes. Mais cela devenait exaspérant, d'autant plus qu'il n'y avait aucune raison de ne pas pousser tout de suite. Nous ne pouvions voir ceux qui étaient à bord, ni imaginer ce qui les retenait. Les canotiers juraient à mi-voix, et non seulement j'avais ma part de l'ouvrage, mais j'avais encore à y maintenir mes deux gaillards, qui avait constamment tendance à se laisser aller et à tout lâcher. À la fin, je me mis à héler. « Dites donc, là-haut !» Et quelqu'un vint regarder par-dessus bord. « Nous sommes parés !» lui dis-je. La tête disparut et se montra à nouveau. Le capitaine dit que ça va et de bien déborder les embarcations. Une demi-heure passa. J'entendis tout à coup un fracas épouvantable, ferraillement, bruit de chaînes qui s'entrechoquent, sifflement d'eau, et des milliers d'étincelles s'envolèrent parmi la colonne de fumée frémissante qui, légèrement inclinée, se dressait au-dessus du navire. Les bossoirs avaient été carbonisés et les deux ancres chauffées au rouge étaient parties par le fond, arrachant et entraînant avec elles 200 brasses de chaînes ardentes. Le navire trembla, la masse de flammes vacilla comme si elle allait s'affaisser et le mât de petit perroquet s'affala. Comme une flèche de feu, il tomba, plongea, puis rebondissant à une longueur d'aviron des canots, se mit à flotter paisiblement, tout noir sur la mer lumineuse. De nouveau, je hélai les gens du pont. Au bout d'un moment, un homme, d'un ton enjoué et fort inattendu, mais étouffé comme s'il s'efforçait de parler la bouche fermée, vint me dire qu'on allait embarquer et disparut. Longtemps, je n'entendis plus rien que le bruissement et le grondement du feu. On entendait aussi des sifflements. Les embarcations dansaient, forçaient sur leurs bosses, se jetaient l'une contre l'autre comme par jeu, s'entrechoquaient, ou bien, malgré nos efforts, elles venaient, en évitant, se coller en paquet contre le flanc du navire. Je finis par ne plus pouvoir le supporter, et me hissant par un filin, je grimpai à bord par l'arrière. Il faisait clair comme en plein jour. En arrivant ainsi, le rideau de feu en face de moi était un spectacle terrifiant, et la chaleur au premier abord semblait à peine supportable. Sur un coussin de banquette qu'on avait monté du carré, le capitaine Beard, les jambes repliées, un bras sous la tête, dormait, tandis que la lumière jouait sur lui. Et savez-vous à quoi s'occupaient les autres? Assis sur le pont, tous à l'arrière autour d'une caisse ouverte, ils mangeaient du pain et du fromage et buvaient des bouteilles de bière. Contre ce fond de flammes qui se tordait au-dessus de leur tête comme des langues féroces, ils avaient l'air d'être dans leur élément comme des salamandres et faisaient l'effet d'une bande de farouches pirates. Le feu étincelait dans le blanc de leurs yeux, luisait sur la peau blanche que laissaient voir les trous de leurs chemises déchirées. Chacun montrait comme les traces d'une bataille, tête entourée de bandages, bras en écharpe, chiffon sale enroulé autour d'un genou, et chaque homme avait une bouteille entre les jambes et un morceau de fromage à la main. Mahon se leva. Avec sa belle figure douteuse, son profil romain, sa longue barbe blanche, et dans la main une bouteille ouverte, on eût dit d'un de ces audacieux forbans de jadis, en train de festoyer au milieu de la violence et du désastre. « Notre dernier repas à bord, » expliqua-t-il avec solennité. « Nous n'avons rien mangé depuis ce matin, et ça ne servirait à rien de laisser tout cela ici. » Il se mit à brandir la bouteille et me montra du geste le capitaine endormi. Il a dit qu'il ne pouvait rien avaler, aussi je l'ai fait s'étendre, continua-t-il. Et comme j'ouvrais de grands yeux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, jeune homme, que cet homme-là n'a pour ainsi dire pas dormi depuis des jours, et dans les embarcations, on aura fichtrement peu de sommeil. Si vous vous amusez encore longtemps de cette façon, il n'y en aura bientôt plus d'embarcations, fis-je avec indignation. J'allai jusqu'au capitaine et me mis à le secouer par l'épaule. À la fin, il ouvrit les yeux, mais ne bougea pas. « Il est temps de quitter le navire, capitaine, » lui dis-je tranquillement. Il se leva péniblement, regarda les flammes, la mer étincelante autour de son navire, et plus loin, noir, noir comme de l'encre. Il regarda les étoiles qui brillaient d'un éclat atténué à travers un mince nuage de fumée, dans un ciel noir, noir comme les rêves. Les plus jeunes d'abord, dit-il. Et le simple matelot, s'essuyant la bouche du revers de la main, se leva, enjamba le couronnement et disparut. Les autres suivirent. L'un d'eux, au moment de quitter le bord, s'arrêta court pour achever sa bouteille et, l'ayant vidée, la jeta d'un grand geste dans le feu. Attrape ça, cria-t-il. Le capitaine s'attardait, navré, et nous le laissâmes un moment, tout à sa communion solitaire avec son premier commandement. Puis je remontai et finis par l'emmener. Il était temps, les ferrures du couronnement étaient chaudes. Alors on coupa la bosse du grand canot, et les trois embarcations amarrées ensemble s'écartèrent du navire. 16 heures exactement s'étaient écoulées depuis l'explosion, quand nous l'abandonnâmes. Mahon avait la charge du second canot, et moi du plus petit, celui de 14 pieds. Le grand canot aurait pu nous prendre tous. Mais le patron avait déclaré qu'il fallait sauver autant de matériel qu'on le pouvait pour les assureurs. Et c'est ainsi que j'obtins mon premier commandement. J'avais deux hommes avec moi, un sac de biscuits, quelques boîtes de viande de conserve et un baril d'eau douce. J'avais ordre de rester près du grand canot pour qu'en cas de mauvais temps, il pût nous prendre à bord. Et savez-vous ce que je pensais? Je pensais que je lui fausserais compagnie aussitôt que possible. Je voulais jouir tout seul de mon premier commandement. Je n'allais pas faire de la navigation d'escadre si l'occasion s'offrait d'une croisière indépendante. Je ferais mon atterrissage tout seul. Je battrais les autres canots. Jeunesse, jeunesse que tout cela, la sotte, la charmante, la belle jeunesse. Mais nous ne mîmes pas en route tout de suite. Il fallait rester avec le navire jusqu'au bout. Et cette nuit-là, les embarcations flottèrent à la dérive, montant et descendant sur la houle. Les hommes sommeillaient, se réveillaient, soupiraient, geignaient. Moi, je regardais brûler le navire. Au milieu des ténèbres de la terre et du ciel, il brûlait avec rage sur un disque de mer pourpre que frappait le jeu de reflets sanglants sur un disque d'eau scintillante et sinistre. Une flamme haute et claire, une flamme immense et solitaire, montait de l'océan et, de son sommet, la fumée noire s'épanchait continuellement vers le ciel. Le navire brûlait avec fureur, lugubre et imposant comme un bûcher funèbre allumé dans la nuit, entouré par la mer, sous le regard des étoiles. Une mort magnifique était accordée comme une grâce, comme un don, comme une récompense, à ce vieux navire au terme d'une vie de labeur. Voir ce fantôme épuisé se remettre ainsi à la garde des astres et de la mer était aussi émouvant que le spectacle d'un glorieux triomphe. Les mâts s'affalèrent juste à l'aube. Un moment, une explosion, un tourbillon d'étincelles parut emplir de feux ailés la nuit patiente et attentive, la vaste nuit silencieuse étendue sur la mer. Le navire n'était plus, à la pointe du jour, qu'une coque carbonisée qui flottait encore sous un nuage de fumée et qui portait dans ses flancs une masse incandescente de charbon. Alors on arma les avirons et les canots en ligne de file tournèrent autour de ces ruines en procession, le grand canot en tête. Comme nous passions sur l'arrière, une mince flèche de feu darda vers nous son trait, et tout à coup le navire coula, l'avant le premier dans un grand sifflement de vapeur. L'arrière, que le feu n'avait pas encore atteint, fut le dernier à couler. Mais la peinture en était partie, c'était craquelé, pelé, et il n'y avait plus de lettres, il n'y avait plus de mots, plus de devises résolues, pareilles à l'âme du navire, pour lancer dans un éclair, au soleil qui se levait, sa foi et son nom. Nous mîmes le cap au nord. La brise se leva soudain, et vers midi, toutes les embarcations se rallièrent pour la dernière fois. Je n'avais dans la mienne ni mât ni voile, mais je fis un mât avec un aviron de reste, et je hissai comme voile une tente avec une gaffe en guise de vergue. Le canot était assurément trop lourdement matté, mais j'avais la satisfaction de savoir qu'avec vent arrière, j'étais capable de battre les deux autres. Il me fallut les attendre. Puis tout le monde jeta un coup d'œil sur le routier du capitaine, et après un cordial repas de biscuits et d'eau, nous reçûmes nos dernières instructions. Elles étaient simples, faire route au nord et garder le contact autant que possible. « Prenez garde avec ce gréement de fortune, Marlot, » me dit le capitaine. Et comme je dépassais sérieusement son canot, Mahon me cria en fronçant son nez recourbé, « Vous naviguerez si bien que vous collerez votre barque par le fond, mon garçon, si vous n'y prenez garde. » Ce vieux-là était plein de malignité, mais que le vaste océan où il dort à présent le berce avec douceur, le berce avec tendresse, jusqu'à la fin des temps. Avant le coucher du soleil, un grain passa sur les deux canots qui se trouvaient derrière, et je ne devais plus les revoir de longtemps. Le lendemain, je tins la route sur ma coquille de noix, en premier commandement, sans rien autour de moi que la mer et le ciel. J'aperçus bien, dans l'après-midi, les voiles hautes d'un navire au loin, mais je me gardais bien d'en rien dire, et mes hommes ne le remarquèrent pas. C'est que, voyez-vous, je craignais qu'il ne fît route pour l'Angleterre, et je n'avais pas envie de tourner le dos aux portes de l'Orient. Je gouvernais sur Java, autre nom béni, comme celui de Bangkok, vous savez. Je gouvernais pendant des jours. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que de tosser dans une embarcation non pontée. Je me rappelle des nuits et des jours de calme plat, où nous souquions, et où le canot semblait immobile, comme ensorcelé dans le cercle de l'horizon. Je me rappelle la chaleur, le déluge des grains qui nous obligeait à écoper sans arrêt pour sauver notre peau, mais qui remplissait notre baril. Et je me rappelle les 16 heures d'affilée que nous passâmes, la bouche sèche comme de la cendre, tandis qu'avec un aviron de queue, je tenais mon premier commandement debout à la dame. Je n'avais pas su jusque-là à quel point j'étais pour de bon un homme. Je me rappelle les visages tirés, les silhouettes accablées de nos 2 matelots, et je me rappelle ma jeunesse, ce sentiment qui ne reviendra plus, le sentiment que je pouvais durer éternellement, survivre à la mer, au ciel, à tous les hommes. Ce sentiment dont l'attrait décevant nous porte vers des joies, vers des dangers, vers l'amour, vers l'effort illusoire, vers la mort. Conviction triomphante de notre force, ardeur de vie brûlant dans une poignée de poussière, flamme au cœur, qui chaque année s'affaiblit, se refroidit, décroît et s'éteint trop tôt, avant la vie elle-même. Et c'est encore ainsi que l'Orient m'apparaît. J'ai connu ses recoins secrets, et j'ai pénétré jusqu'au fond même de son âme. Mais à présent, c'est toujours d'une petite embarcation que je le vois, haute ligne de montagne, bleues et lointaines au matin, pareille à une brume légère à midi, muraille de pourpre dentelée au coucher du soleil. J'ai encore dans la main la sensation de l'aviron et dans les yeux la vision d'une mer d'un bleu éclatant. Et je vois une baie, une vaste baie, lisse comme du verre, polie comme de la glace, qui miroite dans l'ombre. Une lueur rouge brille au loin dans le noir de la terre. La nuit est molle et chaude. De nos bras endoloris, nous souquons sur les avirons, et tout à coup, une risée faible et tiède, toute chargée d'étranges parfums de fleurs, de bois aromatiques, s'exhale de la nuit paisible, premier soupir de l'Orient sur ma face. Cela, jamais je ne pourrais l'oublier. C'était un souffle impalpable et enchanteur, comme un charme, comme le chuchotement prometteur de mystérieuses délices. Nous avions nagé 11 heures, durant cette dernière étape. Nous étions 2 aux avirons, et celui dont c'était le tour de se reposer tenait la barre. Nous avions aperçu le feu rouge de cette baie, et nous avions mis le cap dessus, pensant bien qu'il devait marquer quelques petits ports côtiers. Nous avions dépassé 2 navires d'aspect exotique, d'arrière très haut, endormis à l'ancre, et en approchant du feu, très faible maintenant, le canot vint heurter du nez l'extrémité d'un appontement. Nous étions morts de fatigue. Mes hommes lâchèrent les avirons et s'avalèrent sur les bancs comme des cadavres. Je m'amarrai à un pieu. Un courant ridait l'eau mollement. L'obscurité parfumée du rivage formait de vastes masses, probablement des touffes colossales de végétation, formes muettes et fantastiques. À leurs pieds, le demi-cercle d'une plage étincelait faiblement comme une illusion. Pas une lumière, pas un mouvement, pas un son. Le mystérieux Orient était devant moi, parfumé comme une fleur, silencieux comme la mort, sombre comme un tombeau. Et je restais là, exténué au-delà de toute expression, exultant comme un conquérant, incapable de dormir, et extasié comme en présence d'une profonde, d'une fatale énigme. Un clapotis d'aviron, plongeant en cadence, et qui, répercuté par la surface de l'eau et accru encore par le silence, se traduisait en claquement sonore, me fit me dresser d'un bond. Une embarcation européenne arrivait. J'invoquai le nom de la morte et ailé. « Ohé, Judée !» Un cri faible me répondit. C'était le capitaine. J'avais devancé de 3 heures le vaisseau amiral, et je fus heureux de réentendre la voix du vieux tremblant hélas. « Est-ce vous, Marlot ? Méfiez-vous du bout de l'appontement, capitaine » criai-je. Il approcha avec précaution et vint accoster avec la ligne de grande sonde que nous avions sauvée pour les assureurs. Je mollis ma bosse et me laissai culer. Il était assis là, à l'arrière, dans une attitude défaite, tout trempé de rosée, les mains jointes sur les genoux. Ses hommes étaient déjà endormis. « J'ai passé un sacré moment, » murmura-t-il. « Mahon est derrière, pas très loin. » Nous nous entretenions à voix basse, comme si nous avions eu peur de réveiller la terre. Le canon, le tonnerre, un tremblement de terre n'auraient pas, à ce moment, éveillé ces hommes. Tout en parlant, je me retournai et vis un large feu brillant qui glissait dans la nuit. Voilà un vapeur qui passe en vue de la baie, dis-je. Il ne passait pas, il entrait, et même il vint tout près et mouilla. Je voudrais bien, me dit le capitaine, que vous alliez voir si c'est un Anglais. Peut-être qu'il pourrait nous donner passage pour un endroit quelconque. Il avait l'air inquiet et agité. À force de bourrades et de coups de pied, je parvins à mettre un de mes hommes en état de somnambulisme, et lui passant un aviron, j'en pris un autre, et nous nageâmes vers les feux du vapeur. Il nous en parvenait un bruit confus de voix, de chocs sourds et métalliques, venant de la chambre des machines, de pas sur le pont. Ses hublots brillaient, ronds comme des yeux écarquillés. Des formes allaient et venaient, et l'on distinguait en haut, sur la passerelle, la forme vague d'un homme. Il entendit le bruit de nos avirons. Alors, avant que j'eusse pu ouvrir la bouche, j'entendis l'Orient me parler, mais avec une voix d'Occident. Un torrent de mots se déversa dans le silence énigmatique et fatal des paroles étrangères, courroucé, mêlé à ces mots, et même à des phrases entières de bon anglais, moins étranges, mais plus surprenantes encore. La voix jurait et tempêtait avec violence. Elle criblait d'une portée du juron la paix solennelle de la baie. Elle commença par m'appeler « cochon » et continua crescendo à m'agonir d'une série d'épithètes plus impossibles à redire les unes que les autres, en anglais. L'homme là-haut rageait à tue-tête en deux langues et avec dans sa fureur une telle sincérité qu'elle alla presque jusqu'à me convaincre que j'avais de façon ou d'autre attenté à l'harmonie de l'univers. Je le voyais à peine, mais je commençais à penser qu'il finirait par avoir une attaque. Il s'arrêta tout d'un coup, et je l'entendis qui reniflait et soufflait comme un phoque. « Quelle est ce vapeur, je vous prie ?» lui criai-je. « Hein, qu'est-ce que c'est ? Et vous, qui êtes-vous donc ?» L'équipage naufragé d'un trois-mâts anglais incendié en mer. Nous sommes arrivés cette nuit. Je suis le lieutenant. Le capitaine est dans le grand canot et voudrait savoir si vous nous donneriez passage pour quelque part. « Ah, bon Dieu, dites-moi, nous sommes le Célestial venant de Singapour et nous rentrons. J'arrangerai ça avec votre capitaine dans la matinée. Et, dites-moi, vous m'avez entendu tout à l'heure ? J'imagine qu'on a pu vous entendre dans toute la baie. Je vous ai pris pour un canot d'ici. Et, vous voyez, ce sacré feignant de propre hardien de gardien s'est encore endormi. Que le diable l'emporte ! Le feu est éteint et j'ai failli me coller sur ce sacré appontement. C'est la troisième fois qu'il me joue ce tour-là. Je vous le demande, est-ce qu'on peut vraiment tolérer chose pareille ? Il y a de quoi vous rendre fou. Je le signalerai, et je le ferai fiche dehors par le vice-résident. Nom de... Voyez, il n'y a pas de feu. Il est éteint, n'est-ce pas ? Je vous prends un témoin qu'il est éteint. Il devrait y avoir un feu là, voyez-vous ? Un feu rouge sur là. Il y en avait un, fis-je doucement. Mais il est éteint, mon garçon. À quoi bon parler comme cela ? Vous voyez bien vous-même qu'il est éteint, hein ? Si vous aviez à conduire un beau vapeur le long de cette côte de malheur, vous en voudriez aussi un de feu. Je lui flanquerai une raclée tout le long de son sacré appontement. Vous verrez un peu si je le manque. Je... Alors, je peux dire au capitaine que vous allez nous prendre ? Interrompis-je. Oui, je vous prendrai. Bonsoir, dit-il brusquement. Je virai de bord et je m'amarrai de nouveau à l'appontement, puis je m'endormis enfin. J'avais affronté le silence de l'Orient. J'avais entendu un peu de son langage. Mais quand je rouvris les yeux, le silence était aussi absolu que si rien n'était jamais venu le rompre. Je reposais dans un flot de lumière, et jamais le ciel ne m'avait auparavant semblé ni si loin ni si haut. J'ouvris les yeux et demeurai étendu sans bouger. C'est alors que je vis les hommes de l'Orient. Ils me regardaient. Toute la longueur de l'appontement s'était remplie de gens. Je vis des visages bruns, bronzés, jaunes, des yeux noirs, l'éclat, la couleur d'une foule orientale. Et tous ces êtres nous regardaient fixement, sans un murmure, sans un soupir, sans un geste. D'en haut, ils regardaient les canots, les hommes assoupis qui, pendant la nuit, étaient venus vers eux de la mer. Rien ne bougeait. Les frondaisons des palmiers se dressaient immobiles contre le ciel. Pas une seule branche ne remuait le long de ce rivage, et les toits bruns des maisons s'apercevaient à travers le feuillage vert, à travers de larges feuilles qui pendaient, luisantes et immobiles, comme si elles eussent été faites de quelque lourd métal. C'était là l'Orient des anciens navigateurs, si vieux, si mystérieux, resplendissant et sombre, vivant et immuable, plein de dangers et de promesses. et c'était là de ses âmes. Je me redressai tout à coup. Une ondulation se propagea d'un bout à l'autre de la foule, passa le long des têtes, fit osciller les corps, courut le long de l'appontement comme une ride sur l'eau, comme le souffle du vent sur un champ, puis tout reprit son immobilité. Je revois tout cela. Le vaste cercle de la baie, les sables qui scintillent, la richesse d'une verdure infinie et variée, la mer bleue comme une mer de rêve, la foule des visages attentifs, l'éclat des couleurs crues, la courbe du rivage, l'appontement, le navire exotique avec sa poupe élevée qui flotte immobile, et les trois canots avec ces hommes accablés venus d'Occident et qui dorment sans souci de la terre et des hommes, ni de l'ardeur du soleil. Ils dormaient, en travers des bancs, tassés en rond sur les planches du fond, dans des attitudes abandonnées, comme des morts. La tête du vieux capitaine, appuyée à l'arrière du grand canot, était retombée sur sa poitrine, et on aurait dit qu'il n'allait jamais se réveiller. Plus loin, la figure du vieux Mahon était tournée vers le ciel, sa longue barbe blanche étalée sur sa poitrine, comme s'il avait été frappé d'une balle, tandis qu'il tenait la barre. Et un homme, affalé à l'avant du canot, dormait en entourant l'étrave de ses deux bras et la joue collée contre le plat-bord. L'Orient les contemplait en silence. Depuis, j'ai connu sa séduction. J'ai vu des rivages mystérieux, l'eau immobile, les terres de nations brunes, où une némésis furtive épie poursuit, surprend tant d'hommes de la race conquérante, fiers de leur sagesse, de leur savoir, de leur puissance. Mais pour moi, tout l'Orient tient dans cette vision de ma jeunesse. Il tient tout entier dans cet instant où j'ouvris sur lui mes jeunes yeux. Je l'avais abordé au sortir d'un combat avec la mer, et j'étais jeune, et je le vis qui me regardait. Et voilà tout ce qui en reste. Rien qu'un moment. Un moment de force, d'aventure, de splendeur, de jeunesse. Un éclair de soleil sur un rivage étrange, le temps d'un souvenir, l'espace d'un soupir, et puis adieu. La nuit, adieu. Il but. Ah, le bon vieux temps! Le bon vieux temps! La jeunesse et la mer, l'enchantement et la mer, la bonne, la rude mer, la mer âcre et salée qui murmurait à votre oreille et rugissait contre vous et vous coupait brutalement le souffle. Il but de nouveau. Entre toutes les merveilles du monde, il y a la mer, je crois, la mer elle-même, ou bien est-ce seulement la jeunesse? Qui peut le dire? Mais vous autres, vous avez tous eu quelque chose de la vie, de l'argent, de l'amour, tout ce que l'on trouve à terre. Eh bien, dites-moi, n'était-ce pas le meilleur temps, ce temps où nous étions jeunes à la mer? Jeunes et sans rien à nous, sur la mer qui ne vous donne rien que de rudes coups, et parfois l'occasion d'éprouver votre force, rien que cela, ce que vous regrettez tous. Et tous, nous l'approuvions. L'homme de finance, l'homme de chiffres, l'homme de loi, tous nous l'approuvions, par-dessus la table polie, qui, comme une immobile nappe d'eau brune, réfléchissait nos visages sillonnés et ridés. Nos visages marqués par le travail, par les déceptions, par le succès, par l'amour. Nos yeux la cherchant encore, cherchant toujours, cherchant avidement à arracher à la vie ce quelque chose qui, alors qu'on l'attend encore, s'est déjà dissipé, a passé à notre insu dans un soupir, dans un éclair, avec la jeunesse, avec la force, avec la séduction romanesque des illusions. Joseph Conrad, traduit de l'anglais par G. Jean Aubry.